Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve vous informe sur Europe 1.
Dans un instant, Philippe Cassard nous parle de Mozart, mais d'abord c'est le journal. Bonsoir Guillaume Dominguez.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Il est 19h sur Europe 1.
L'Italie vit en ce moment l'un des scrutins les plus importants de son histoire. Les Italiens doivent élire aujourd'hui leur nouveau représentant au Parlement. Et c'est l'alliance de droite et d'extrême droite qui devrait vraisemblablement l'emporter.
Le gouvernement va-t-il avoir recours au 49-3 pour faire passer le budget? L'idée n'est pas exclue par Gabriel Attal ce matin dans les colonnes du JDD. Mais une chose est sûre, l'exécutif veut faire passer sa réforme des retraites avant l'été 2023.
Et puis enfin, nous irons en fin de journal au Danemark, où la France joue ce soir son dernier match avant la Coupe du Monde au Qatar. Les Bleus vont devoir faire aussi bien que jeudi soir face à l'Autriche.
La tendance météo, Valérie Darmon.
Chute libre des températures dès ce lundi et arrivée d'une nouvelle perturbation très pluvieuse par le nord-ouest dès les premières heures du jour, qui va s'étendre à toute la France, excepté le sud dans l'après-midi.
Météo complète en fin de journal. Ils sont 50 millions d'Italiens qui ont rendez-vous avec les urnes. Depuis ce matin, ils élisent les nouveaux visages de leur Parlement.
Une élection particulièrement scrutée en Europe et sauf grande surprise, c'est la coalition de droite et d'extrême droite qui devrait l'emporter. Et plus particulièrement, le parti Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni. Frédéric Michel, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Rome et où ce possible résultat donc de cette possible victoire de Giorgia Meloni ce soir ne semble pas avoir d'impact sur le scrutin.
Oui, entre deux averses et des éclaircies qui ont même parfois laissé de la place à un franc soleil, on a vu au fil de la journée, ici à Rome, les bureaux de vote se remplir. On est venu voter en famille, accompagnant souvent des parents plus âgés. La possible victoire de Giorgia Meloni, annoncée depuis des jours, ne semble pas avoir eu une influence sur la participation, d'un côté comme de l'autre. Gianni, professeur d'art, a voté sans inquiétude.
Non è da preoccuparsi.
Il n'y a pas de préoccupation à avoir car notre système politique nous protège. Même si Giorgia Meloni devait gagner, l'Italie ne changera pas, ce sera toujours la même Italie. Au niveau national, c'est bien l'Italie qui décide. Ensuite, avec l'Europe, on collabore. C'est pour cela qu'il y a la politique.
Valeria, maman de deux enfants, est plus soucieuse de voir Giorgia Meloni et la coalition des droites l'emporter.
Il y a besoin toujours de quelque chose de plus Europe, plus intégration, même si elle ne va rien faire. Pour les gens ici d'origine étrangère, même s'ils sont devenus italiennes, il y a la peau différente, ils vont risquer plus maintenant. Même dans la rue, ça c'est ma peur.
Les premiers résultats sont attendus dans la nuit, et sauf si les scores sont serrés, on devrait connaître le vainqueur des élections au petit matin.
Frédéric Michel, envoyé spécial pour Europe 1 en direct de Rome. Selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur italien, le taux de participation était de 19% ce matin, à l'image des législatives de 2018.
Double baptême du feu pour le gouvernement demain devant l'Assemblée, présentation du budget 2023 et du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Et c'est la présentation de ce texte qui promet d'être explosif si l'exécutif y introduit sa réforme des retraites. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne réuniront la semaine prochaine une partie du gouvernement et une partie de la majorité présidentielle pour justement discuter de la méthode, Arthur Delaborde.
Oui, Emmanuel Macron temporise et veut montrer qu'il consulte. Cette réunion permettra de faire le point sur la nécessité et les enjeux de cette réforme des retraites, explique l'Élysée. Le Palais souligne que l'objectif est qu'elle soit adoptée coûte que coûte à l'été 2023. Mais pour le moment, plusieurs options sont encore sur la table, que ce soit un texte autonome d'ici le début de l'année prochaine ou un simple amendement d'ici Noël. Cette seconde hypothèse était jusqu'ici privilégiée, mais les critiques au sein même de sa majorité ces derniers jours ont fini par faire hésiter le chef de l'État. La présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, n'y est pas favorable, tandis que François Bayrou dénonce même un passage en force. Le patron du Modem a prévenu que ses députés ne voteraient certainement pas un tel amendement. François Bayrou, qui aura l'occasion d'en parler directement à Emmanuel Macron, les deux hommes se verront vendredi à Pau. Le président ira inaugurer un complexe culturel dans la ville de son allié centriste.
Voilà, le débat s'annonce donc houleux à l'Assemblée nationale. Une chose est sûre, le déficit de la sécurité sociale s'annonce, lui, moins important que prévu, un peu moins de 7 milliards d'euros contre les 18 milliards prévus, selon l'avant-projet de financement publié aujourd'hui.
100 millions d'euros, c'est ce que coûte chaque année à l'État les arrêts maladie de complaisance. Une fraude que compte bien faire cesser le gouvernement.
Oui, certains patients utiliseraient la téléconsultation pour se faire prescrire un arrêt de travail et ce sont ces arrêts maladie que Gabriel Attal veut dérembourser. Il l'a annoncé ce matin dans les colonnes du JDD. Du côté du syndicat des médecins libéraux, ce n'est pas une surprise, mais pour Sophie Bauer, chirurgienne et secrétaire générale du syndicat, ce sont les plateformes de téléconsultation qui sont responsables.
Le souci que nous pouvons avoir, c'est avec certaines plateformes qui donc ne sont pas des établissements de santé et qui peuvent employer des médecins, y compris hors de France, qui du coup sont même pas forcément des médecins connus du Conseil de l'Ordre en France. Donc ça, c'est un écueil et un problème. Et un certain nombre d'entre elles donc répondent à la législation commerciale et non pas à la législation en santé, ce qui rend les choses encore plus difficiles. Ça fait longtemps que nous dénonçons cette dérive. Nous nous sommes attachés à ce que la téléconsultation reste aux mains de médecins qui ont également une activité dans leur cabinet, donc de médecins installés, et non pas de médecins qui seraient totalement hors sol, inféodés à ces plateformes et qui donc échapperaient à toute législation ordinale.
Sophie Bauer, chirurgienne et secrétaire générale du syndicat des médecins libéraux, au micro de Chloé Lagadou.
Un peu plus d'un mois après la cyberattaque qui, souvenez-vous, avait touché l'hôpital de Corbeil-Essonne en région parisienne, eh bien les hackers ont mis leur menace à exécution.
Un fichier de 11 gigaoctets contenant des données de santé volées à l'hôpital a été divulgué à l'intérieur des numéros de sécurité sociale, des bilans d'examen et des coordonnées personnelles. En France et à travers le monde, ces cyberattaques se multiplient contre des centres hospitaliers. Pour Nicolas Arpadjian, spécialiste en analyse de la cybermenace, il est urgent de prendre des mesures pour mieux protéger ces centres hospitaliers.
Les hôpitaux publics sont considérés comme des cibles accessibles. Ils ne bénéficient pas tous du meilleur niveau de protection pour des questions d'investissement. Pour se prémunir contre des cyberattaques, la première règle, c'est de faire en sorte d'accentuer la capacité de détection, savoir quand quelqu'un rentre dans un système d'information, isoler la partie du système d'information qui aura été infectée pour éviter qu'il y ait une navigation facile dans l'ensemble de la structure informatique de l'établissement public. Donc c'est beaucoup de politiques d'investissement préalables, d'une part sur la capacité de détection dans une politique de sauvegarde qui permet de reconstituer dans des délais relativement rapides le maximum d'informations qui composent le système d'information.
Nicolas Arpadjian, spécialiste en analyse de la cybermenace, au micro de Nina Droff.
19h07 sur Europe 1, une zone de guerre, c'est comme ça que les médias canadiens ont décrit les communes sinistrées après le passage de Fiona.
En quelques heures, hier, des trombes d'eau et des rafales à près de 150 km/h ont touché la côte de la Nouvelle-Écosse, c'est à l'est du Canada. Une personne est toujours portée disparue après que sa maison ait été emportée par une coulée de boue. Près d'un demi-million de foyers sont toujours privés d'électricité. Plus tôt dans la journée, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé l'envoi sur place de moyens humains et matériels.
Nous sommes là pour aider avec les ressources nécessaires, que ce soit des forces armées, que ce soit de l'équipement spécialisé. On est en train de répondre pour ajouter aux effectifs que toutes les provinces ont déjà pour répondre à des situations comme cela. Je sais que c'est des moments extrêmement difficiles pour bien des gens qui voient leur maison, leur propriété détruite, mais je sais aussi que les gens savent qui sont pas seuls et que nous allons continuer d'être là pour eux.
Requalifiée en tempête post-tropicale, Fiona se dirige à présent vers le nord du Canada et perd déjà en intensité.
Allez, on passe au sport. Et c'est le dernier match pour les Bleus avant le Mondial du Qatar. L'équipe de France affronte le Danemark ce soir en Ligue des Nations. Match à suivre bien sûr en intégralité dès 20h45 sur Europe 1.
Les Bleus, qui au terme d'une semaine agitée en coulisses par plusieurs affaires et polémiques, doivent confirmer leur belle prestation de jeudi contre l'Autriche. Jean-François Pérez.
Et oui, c'est une victoire inattendue que les Bleus ont remporté 2-0 malgré des blessures en cascade, 14 en tout, du jamais vu. Les Bleus qui sont arrivés il y a quelques instants ici au stade à Copenhague pour cette dernière répétition d'avant-mondial. Vous l'avez dit, la Coupe du Monde c'est dans moins de 2 mois et les enjeux ce soir ils sont nombreux. D'abord, tout porte à croire que Didier Deschamps va finalement titulariser une nouvelle fois Olivier Giroud à la pointe de l'attaque. On l'attendait remplaçant le chouchou de nombreux fans des Bleus, de plusieurs de ses coéquipiers. Mbappé, Varane ont eu des mots très élogieux cette semaine pour le vétéran de bientôt 36 ans. Giroud devrait être là, deuxième buteur de l'histoire des Bleus. Il pourrait se rapprocher un peu plus de Thierry Henry. 49 buts pour lui, 51 pour Thierry Henry. Et puis valider évidemment un petit peu plus son billet pour le Mondial. Pour le reste, avec une équipe qui sera encore ce soir sans doute très remaniée, il s'agira de se maintenir dans l'élite de cette Ligue des Nations et du foot européen. Et donc d'éviter un faux pas chez cet adversaire redoutable que les Bleus vont retrouver dans 2 mois pile au Qatar. Français et Danois ne se quittent plus ces derniers temps. Accueil très chaleureux ici, malgré une pluie typique d'un début d'automne au bord de la mer Baltique. On attend 36 000 spectateurs. Coup d'envoi 20h45.
Quel romantique ce Jean-François Pérez, chef du service.
C'est l'effet Kierkegaard.
Chef du service des sports d'Europe 1 en direct du Danemark. Bien joué, mon cher Jean-François. Bonsoir Lionel Rousseau.
Bonsoir Pierre.
Dans Europe 1 Sport tout à l'heure, bien sûr, ce choc à suivre.
Mais du romantisme, de l'amour, des sensations et de l'émotion aussi dans notre émission ce soir, dans nos thématiques notamment. Mais pas du tout, au contraire. C'est ça la passion du sport et la passion du football.
Mais je sais. Oh là là.
Autour notamment alors du cas Olivier Giroud, en effet, sans doute titulaire ce soir. Du cas Areola, le gardien remplaçant du remplaçant, qui est champion du monde mais qui n'a pas joué en 2018 et qui est titulaire ce soir, qui est remplaçant également dans son club en Angleterre. À quoi sert-il? Et est-ce que c'est un signal pour l'avenir et par rapport à la Coupe du Monde au Qatar? On en parlera ce soir avec nos experts. On parlera aussi de ce fameux brassard arc-en-ciel que portent les capitaines des grandes nations comme l'équipe de France. Ce sera le cas de Varane ce soir pour lutter contre les discriminations au Qatar. Une manière de protester doucement, mais de protester.
Ben voilà, il y a le symbole, c'est important. Merci beaucoup Lionel Rousseau et bonsoir. Et merci à vous mon cher Guillaume Dominguez, le ciel.
Vous rêvez d'une piscine sur mesure? Choisissez le spécialiste près de chez vous. Mondial Piscine, l'art de donner vie à vos rêves. Mondial Piscine vous présente la météo.
Valérie Darmon, on voit le temps de ce lundi, automnal il me semble.
Effectivement Pierre, les températures descendront jusqu'à 5 degrés sous les moyennes de saison, sous de fortes pluies, des giboulées accompagnées d'un vent soutenu. Ajoutons à cela de grosses chutes de neige inhabituelles pour la saison sur nos massifs des 1400 mètres d'altitude. L'automne est donc bel et bien là. Les températures seront dignes d'une mi-octobre et votre mercure affichera déjà ce lundi 15 degrés à Chartres et Orléans, 16 degrés à Rodez et Saint-Étienne, 17 à Châteauroux et Clermont-Ferrand, 18 à Brest, à Rennes et à Angers, 19 à Lyon, 20 degrés à Cahors, 22 à Marseille, 24 à Nice et à Paris, 15 degrés aux heures les plus chaudes de la journée.
Merci Valérie Darmon. Dans un instant, Mozart, quelques notes de Philippe Cassard qui nous met un bel album Mozart à l'opéra. Et puis à 19h30, la mode durable, on en parle avec les spécialistes et notamment Madame Viviane Blassel qui, souvenez-vous, a été la papesse de la mode sur TF1. À tout de suite.